Jean-Luc Hervé, comment vous est venu les jardins ?
Le travail autour des jardins, c'est une vieille histoire en fait, qui a commencé il y a exactement plus de 10 ans. C'est un séjour que j'avais fait au Japon, à Kyoto, et étant parti avec un intérêt très moyen, je dirais, pour la culture orientale, je me suis fait prendre moi-même à mon propre piège, si je puis dire, parce que j'ai été quand même très intéressé par la culture traditionnelle japonaise, et notamment un certain aspect de la culture des jardins, qui n'est pas celui d'ailleurs que l'on connaît le plus en Occident, parce qu'en Occident on connaît un petit peu les idées kaijien, par exemple, sur le fameux Ryoanji, les jardins zen, le côté un petit peu new age, en fait, de cette culture. Alors qu'il y a beaucoup d'aspects, en fait, dans l'art des jardiniers japonais. Moi, j'étais frappé par un aspect qui est ce qu'on appelle, je l'ai appris très récemment, d'ailleurs, c'est un nom, ça s'appelle le shakei, ce qui veut dire la capture du paysage. Et c'est une technique qui, en tout cas, un concept, on pourrait dire, qui est à l'œuvre dans certains jardins, de construire le jardin en fonction du contexte, en fonction du paysage que l'on voit en fond, donc en fonction de la nature. Sans connaître du tout ce concept, moi j'ai visité certains de ces jardins et j'ai été frappé par la force que revêtaient ces propositions artistiques à partir du moment où elles étaient ancrées dans le lieu, dans la réalité naturelle qui entoure le jardin. Et en fait, je dirais que donc ma relation au jardin, elle est venue de là. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à imaginer comment transcrire cette idée en musique, sachant que je suis un compositeur d'écriture, un compositeur qui écrit pour les ensembles, pour les orchestres, donc un compositeur de salle de concert, et j'ai cherché comment je pouvais trouver une manière de mettre en relation la situation d'un concert et le paysage autour, de la même manière que les Japonais, dans leur jardin traditionnel, cette idée de capture du paysage, mettent en relation donc le lieu, l'œuvre artistique et le contexte. Et donc à partir de là, j'ai imaginé des œuvres qui sont entre l'intérieur et l'extérieur, qui tiennent compte du lieu dans lequel est donnée la pièce musicale. Une de mes premières œuvres de ce type, d'ailleurs, je l'ai réalisée dans un jardin à Kyoto, dans un jardin traditionnel. C'était une pièce qui s'appelait Effet lisière. L'idée de la lisière, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais peut-être que je peux dire un mot sur cette idée de lisière. On marche dans la forêt, on a une perspective assez fermée, en fait, avec le feuillage des arbres. Et quand on arrive à la lisière de la forêt, tout d'un coup, on change brutalement de perspective. Un autre monde s'ouvre à nous. On est surpris, on est émerveillé. Cette idée de la lisière, donc, c'est une idée aussi qu'on trouve dans la musique, hein, et notamment dans une tradition de musique française, la musique spectrale, à explorer ces lisières perceptives. Les lisières entre le son, le bruit, entre le rythme, la rythmie. Et finalement, c'est cette idée de lisière aussi qui m'a habité et qui m'a incité à réfléchir sur cette relation entre le lieu clos, donc du concert, et l'espace ouvert qu'il peut y avoir à l'extérieur.
Ah oui, quand vous parlez justement de l'expérience spectrale, on parle souvent de musique liminale.
C'est un lien que j'ai fait a posteriori. Comme je disais, moi, en fait, depuis un peu plus de 10 ans, mon travail est centré sur cette idée de prise en compte du contexte, on va dire, et cette idée de passage, d'extérioriser, de transporter une écoute d'une situation de concert vers l'extérieur, vers le monde extérieur. Et donc, passer une lisière, en quelque sorte. Et je me suis rendu compte que, un petit peu, peut-être inconsciemment, dans ma culture de compositeur français, il y avait effectivement cette idée de musique liminale aussi, propre à la musique spectrale. Mais il y a une autre chose qui, pour moi, est importante historiquement dans la musique spectrale, enfin, la manière dont moi je l'analyse, c'est aussi cette préoccupation, en quelque sorte, du monde extérieur au sein même de la composition. C'est-à-dire que lorsque un compositeur comme Gérard Griset ou Tristan Murailles fonde son écriture sur un modèle acoustique naturel, un son qui existe, un son extérieur, en quelque sorte, il établit un lien entre l'intérieur, l'imaginaire du compositeur, la table de travail du compositeur, le travail abstrait de développement d'un matériau musical et l'extériorité d'un son naturel ou d'un son enregistré à l'extérieur. Il établit donc un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Je fais cette analyse, moi, de cette idée de la musique spectrale, du modèle naturel, de mise en relation de la musique avec le monde.
Certains musicologues introduisent un concept comme la notion de in situ.
Ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, toujours à la suite de cette expérience japonaise, parce que je me suis rendu compte que lorsque vous imaginez un projet musical par rapport à un lieu, donc un projet in situ, ce qui m'intéresse, moi, c'est que la musique, la proposition artistique, nous fait percevoir le lieu différemment. Alors, en art plastique, bon, ça, c'est quelque chose qui est assez courant, enfin, assez connu, mais en musique, c'est plus rare, on pourrait dire. Et je trouve que, justement, travailler sur l'écoute musicale est très intéressant du point de vue de cette idée d'in situ, parce que lorsque on écoute le monde avec une écoute musicale, eh ben on découvre des choses. On est dans un monde qui est quand même majoritairement sous l'emprise de l'image, sous la séduction spectaculaire de l'image. Ces images nous masquent toute la richesse sonore, la richesse de l'écoute. Travailler de manière donc in situ pour un compositeur, c'est de révéler un petit peu toute cette richesse sonore que l'on peut découvrir avec une écoute musicale.
Le paradoxe, c'est aussi que dans la notion d'in situ, il y a la question de l'enveloppe sonore. Et si on écoute la musique médiévale, le chant grégorien, on voit bien qu'elle est articulée à l'espace sonore qui l'a construit.
Le contexte sonore, évidemment, est important. Dans un projet musical, je pense qu'il faut tenir compte. En tout cas, moi je sais que j'ai écrit des œuvres, par exemple, spécialement pour des acoustiques particulières. Ça, c'est une chose. Une œuvre qui s'appelle par exemple Amplification Résonance, que j'avais imaginée pour un lieu anti-musical au possible. C'était une espèce d'immense hall avec une réverbération immense. Et donc j'avais pensé de la musique par rapport à ça. Mais lorsqu'on travaille à l'extérieur, le son à l'extérieur, on a aussi évidemment le contexte sonore. C'est un petit peu la condition. C'est-à-dire qu'évidemment, la situation de concert, pour moi, est une situation optimale pour l'écoute. Même si le rituel du concert est des fois un petit peu suranné, il a un sens qui est de vouloir annuler tout ce qui est de l'ordre du spectacle visuel, de concentrer, c'est une sorte de cérémonie on pourrait dire, hein, de concentrer l'écoute sur l'émission des sons par les musiciens. Une salle de concert est un lieu isolé phoniquement du monde extérieur. Alors évidemment quand on transporte un projet musical à l'extérieur, là on est dans le contexte sonore extérieur qui peut être différent selon les endroits, qui peut être la nature, qui peut être le contexte urbain. Par rapport au contexte naturel, les expériences que j'ai réalisées de pièces que j'appelle moi donc ces concerts-installations, où il y a une partie à l'intérieur avec des musiciens, une partie à l'extérieur qui est toujours réalisée sur un dispositif de haut-parleur. Dans un contexte naturel, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont dans une situation d'écoute musicale et du coup tous les sons que l'on entend deviennent musicaux. Et en fait, il y a beaucoup de sons musicaux. Hein. Les plus évidents, évidemment, et je ne suis pas le premier à l'avoir découvert, ce sont les chants d'oiseaux. Le commun des mortels n'est pas ornithologue chevronné. Et là, du coup, lorsque on est dans une situation d'écoute musicale à l'extérieur, le moindre chant d'oiseau devient une proposition musicale. Et ça, j'en ai vraiment l'expérience avec un public qui ne savait plus, lorsque les haut-parleurs sont cachés dans un espace naturel, ne savait plus si les sons qu'ils ont en tête étaient des sons électroacoustiques ou des sons naturels d'animaux, d'oiseaux, de grenouilles. Et ça, c'est très beau, je trouve. C'est très beau parce que là, le monde devient un monde animé, devient un monde magique. Dans un contexte urbain, c'est autre chose. Il y a quand même un fond sonore en ville. J'avais réalisé une pièce plein cœur de Paris en deux parties. Une pièce qui s'appelle Germination, entre les sous-sols de l'IRCAM et puis la place Stravinsky. Là, la question, c'était une question technique parce que on était dans un endroit sur la place Stravinsky qui était un endroit très fréquenté, avec la rumeur de la ville au loin, la rumeur de la ville qui est une espèce de continuum bruiteux dans un bruit un peu dans le médium, au loin. Et la problématique, quand on imagine un projet musical dans ce contexte, c'est de trouver déjà dans le matériau sonore une zone de fréquence qui va se détacher du fond. Et là encore, c'est les oiseaux qui m'ont sauvé la mise, si je puis dire, parce que on entend toujours les oiseaux quand on se promène même à Paris. Si on fait attention un petit peu, même s'il y a un bruit de circulation qui est très important, le chant des oiseaux passe toujours. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une bande de fréquence qui est très aiguë, qui est une sorte de niche écologique sonore qui est différente de la rumeur de la circulation ou des voix parlées. Et donc quand j'ai fait moi cette pièce Germination, la partie qui était à l'extérieur était fondée sur des sons très aigus en majorité. Et du coup, eh bien, c'était très audible malgré que c'était diffusé sur des tout petits haut-parleurs. Et malgré le brouhaha ambiant, eh bien, c'était très très audible et ça passait très bien en fait auprès des oreilles du public.
Surtout que vous êtes un spectral, mais un spectral qui part pas du bas, mais un spectral qui part complètement du haut, qui renverse un petit peu la problématique.
Oui, alors je ne me définis pas comme spectral parce que je trouve que la musique spectrale, c'est un courant historique des années 80-90, même si certains collègues un peu plus âgés se définissent comme compositeurs spectraux. Je trouve ça un peu bizarre. On a des influences. On peut pas dire aujourd'hui, c'est comme si on disait, voilà, je suis un compositeur sériel ou je suis un compositeur tonal. Bon, ça n'a pas tellement de sens. Mais cela dit, la préoccupation acoustique est importante dans mon travail et tous les travaux de Griset m'ont beaucoup influencé. Mais effectivement, ma bande de fréquence privilégiée est plutôt l'aigu. C'est peut-être aussi la forêt, cette idée d'écoute acousmatique, on pourrait dire d'écoute sans voir, parce qu'il y a des situations, donc d'écoute musicale, parce que l'écoute musicale, finalement, c'est une écoute qui peut se concentrer sur elle-même, avant tout. Et il y a des situations en dehors de la salle de concert où on a cette écoute musicale, cette écoute sans voir. Et une de ces situations, c'est l'écoute de l'ornithologue en forêt. J'en ai fait l'expérience, plus jeune j'étais aussi un petit peu intéressé par l'ornithologie. Eh bien les personnes qui forment le groupe discutent entre elles, il faut quelqu'un qui dise, voilà, il va falloir écouter quelque chose. Et le compositeur est un guide, en quelque sorte, hein. Bon, quelqu'un qui dit, voilà, attention maintenant, on vous met dans une situation d'écoute. Et à ce moment-là, eh bien, tous les promeneurs deviennent attentifs, et ils sont d'autant plus attentifs parce que en forêt, eh bien, on ne voit pas les oiseaux. Les oiseaux sont à la cime des arbres, ils chantent dans des bandes de fréquences très aiguës. Il y a une ambiance, une espèce de situation commune qui est très proche de l'écoute de concert. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui m'a orienté dans mon travail vers des matériaux qui sont souvent assez aigus, mais c'est vrai que ce souvenir de la sortie ornithologique en forêt, qui a toujours été pour moi un grand bonheur, peut-être une influence dans cette direction.